une question que j'ai toujours voulu vous poser, Alain Trudel. Puis, entre amis, on ne peut pas la poser parce que ça serait indiscret, puis on aurait l'impression d'être franchement fouineux. Mais comme c'est une interview, là, je peux la poser. Alors, vous avez vraiment connu une carrière fulgurante au trombone. Vraiment, vous étiez un, vous êtes sans doute encore, mais vous étiez un des meilleurs trombonistes au monde. Enfin, votre virtuosité, la capacité de faire de la musique avec des affaires impossibles. Je me souviens encore de plusieurs œuvres où on se disait ça n'a ni queue ni tête, mais quand vous la jouiez, ça avait de l'allure. Et soudainement, chef d'orchestre. Qu'est-ce qui fait que dans la tête d'Alain Trudel, on décide de mettre ce merveilleux cuivre sur son piédestal et qu'on lève les deux bras?
Ah, c'est bien dit, ça. à vrai dire, moi, quand j'ai commencé à prendre la musique plus au sérieux, un petit peu...
Vers quel âge?
Hein, vers 15 ans. En fait, j'ai commencé à jouer à 12 ans.
Okay.
Hein, moi, j'étais dans les rythmiques de Montréal, le groupe de cuivre de mon quartier. J'aimais faire de la musique avec eux. J'aimais écrire la musique, parce que moi, dans le fond, ce que je suis, c'est un compositeur qui est frustré.
Qui a mal tourné.
Qui a pas tourné. Non, mais c'est toujours ma curiosité que j'ai eue. Puis après ça, je suis allé à Joseph-François Perrault. Puis quand j'étais dans l'orchestre avec M. Grignet, avec Raymond Grignet, j'avais toujours la partition. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est comment c'était fait, cette musique-là. C'était fait de quoi? C'est comment on traitait ces thèmes-là? Comment... Puis là, M. Grignet, il me dit, Trudel, il dit, tu veux diriger? J'ai fait, beaucoup trop gêné pour dire non. Moi, j'aimerais ça peut-être créer quelque chose. Oui. Fait que je me suis retrouvé à l'âge de 15 ans à diriger à toutes les semaines. À l'école. Des fois, c'était 5 minutes, des fois, c'était 20 minutes, des fois, c'était... Mais tu sais, du temps de podium, quand on est adolescent ou plus jeune, en fait, c'est que moi, à partir de 15 ans, là, à toutes les semaines, j'avais du temps sur le podium, je travaillais et je me faisais, moi, je dirais, des critiques positives, comme on peut dire. À cette époque-là, ça s'appelait la critique positive. Maintenant, on appelle ça de l'abus, là. moi, j'aime la critique positive. mais c'est ça, ça a commencé tout jeune. Par contre, le trombone, que je faisais en même temps, quand j'avais eu 15 ans, là, je suis rentré au conservatoire aussi, puis veux pas, c'était à l'époque des années 80, fait que si quelqu'un nous remarquait dans quelque chose, ben c'était ça, parce que sinon, ça voulait dire qu'on était un petit peu mauvais dans tout. Ce qui est pas toujours le cas, je veux dire, tu sais, c'est pareil comme en médecine.
J'espère pour vous.
Ben oui. Effectivement. Donc, moi, c'est sûr que, bon, ça a bien été en trombone. Les gens m'ont connu plus, mais j'étudiais autant les partitions à l'époque, les scores. J'avais toujours une symphonie avec moi que j'étais en train d'apprendre depuis l'âge de 15 ans. Ce que je faisais, c'est que je les étudiais chez moi. Puis je les avais toutes en tête. Puis quand j'arrivais à la répétition, ben là, je savais c'est quoi qui se passait. Puis si on faisait un Shostakovich ou on faisait un Mahler ou peu importe, je savais ce qui se passait un peu partout. Puis là, je voyais comment il était pour négocier certains passages plus ardus ou encore comment on était pour travailler le son ensemble. En tout cas, toujours est-il que pour répondre, il faut faire une réponse courte.
Jusqu'à maintenant, c'est un triomphe.
Je me suis retrouvé à l'âge de 30 ans à... ce que les gens ont dit, « Ah, tiens, il dirige maintenant. » Sauf que les gens qui me connaissaient et qui avaient vu mon parcours ont dit, « Bon, ben là, finalement, il commence pour vrai. » Fait que je me suis ramassé, j'ai fait les finales du directeur, pour être directeur artistique à Windsor, en Ontario. J'étais, comment on appelle runner-up en français? En tout cas, je suis vraiment en seconde place pour ça.
Ouais, ouais, ouais.
Puis Victoria aussi. Mm-hmm. Donc, les gens disent, « Oh, il fait pour vrai. » J'ai commencé à Toronto. Puis là, de fil en aiguille... Les gens en parlent, puis on nous fait confiance, puis on dit, bon, ben regarde, oui, ça s'est bien passé avec Alain, on va le réengager, puis les gens en parlent, puis là, finalement, je me suis retrouvé ici, puis tous les autres concerts que je fais.
Wow! Et finalement, l'excroissance, c'était le trombone, c'était pas la direction. Mais vous avez mentionné la composition. Ça m'intéresse pour toutes sortes de raisons, mais quand tout à coup on réalise que notre génie, ce n'est pas exactement là qu'il est, il y a un deuil à faire. Est-ce qu'il s'est bien passé?
Mais c'est drôle parce qu'on me commande encore des choses. Fait que j'écris à l'occasion, justement pour l'Orchestre de Toronto, quand il y avait le 150e anniversaire de l'année dernière du Canada, ils ont fait un disque, puis ils ont demandé à 40 compositeurs d'écrire un petit quelque chose. Ils m'ont demandé, bon, je l'ai fait, là. Mais c'est toujours frustrant parce que un compositeur, c'est pareil comme un écrivain. C'est quelqu'un qui se lève le matin puis qui écrit. T'sais? Si on n'est pas dédié à la tâche tant que ça, ben on est comme un compositeur du dimanche. T'sais? Fait que moi, je suis en ce moment, c'est un peu ça que je suis, puis je m'accepte. Là.
Et même du samedi soir, non? Ce oh,
oui, c'est ça. du compositeur de quand bébé va au lit. <C'est ça. rire> je sais pas, il y a un amour de la musique, mais moi, je trouve que ce qui m'a vraiment frappé, c'est fou, là, parce que c'est une œuvre que tout le monde connaît. Là. La première fois que j'ai dirigé la cinquième de Beethoven, là, j'ai fait « Oh, OK, Beethoven fait ça avec quatre notes. Hein. » Je dis « OK, il y a une place pour les génies qui sont les créateurs, puis il y a une place pour les gens qui promouvoient ces génies-là, qui sont les chefs d'orchestre, qui sont les musiciens. » Puis à quelque part, le génie, c'est le compositeur. Puis nous, notre mission, notre métier, c'est de traduire ça. Hein? Parce qu'on dit interprète, être interprète, on prend les notes de musique pour les gens qui ne savent pas lire la musique dans la salle. On joue en respectant le compositeur le plus qu'on peut au point de vue de nos connaissances. Puis on essaie d'en acquérir de plus en plus pour pouvoir le respecter encore plus et voir l'intention du compositeur le plus qu'on peut. À notre interprétation de l'intention du compositeur. Puis ça, c'est vraiment le plus important.
Quand on prend... La tendance aujourd'hui, et je la regrette, du moins chez les instrumentistes, je ne sais pas pour les chefs, mais la tendance aujourd'hui veut que on dit à un élève, écoute, tu vas faire le carnaval de Schumann au piano, ou alors tu vas faire le concerto pour violon de Tchaïkovski, ou alors tu fais le concerto de Dvorak au violoncelle, bon, etc. Et là, ils sortent des librairies et des discothèques, 25-30 enregistrements, ils écoutent tout ça, et là, ils se présentent une difficulté. Par exemple, tel passage, telle transition, tel tuilage qu'il faudrait faire et tout. Puis là, ah ben lui, il fait ça comme ça. De la Rocha fait ça comme ça. Ah ben Rostropovitch fait ça comme ça. Mais Maurice Gendron fait ça autrement, etc., etc., etc. Ouais. Et finalement, on arrive quasiment, et j'imagine que ça vaut peut-être pour les chefs aussi, c'est un peu comme une version, l'assemblage des meilleurs moments de tout un paquet de choses. Et je me dis... Quand vous aviez vos partitions à 15 ans à l'école et que vous regardiez, bon, vous partiez de la partition, est-ce que c'est pas plus rentable de risquer une erreur ou de risquer un contresens, mais de partir de soi? Je me demande si cet apprentissage maintenant, à travers les enregistrements, est aussi valable que celui, ou est-ce qu'il est moins valable que celui où on part de soi-même, en assemblant les notes soi-même, en l'entendant d'abord dans sa tête, ensuite en vérifiant les autres?
Moi, je trouve que c'est une excellente question, c'est un excellent point, parce que une partition, ça s'apprend sans enregistrement. Et d'ailleurs, quand on ne peut pas le faire, c'est parce qu'on n'a probablement pas passé nos cours de solfège puis de dictée au conservatoire. Puis si on ne peut pas faire ça, ben on devrait peut-être pas faire ce métier-là. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de collègues qui apprennent avec des disques, puis c'est comment je vais te démontrer que c'est un moment jouissif dans tel endroit... Bon, OK, mais sauf qu'il y a une courbe, il y a une architecture à une pièce, puis on ne peut pas l'apprendre juste en écoutant, parce que puis on développe des défauts. On va développer les défauts de toutes les personnes qu'on écoute. Puis ça, c'est normal, parce que quand ça vient de la personne elle-même, il y a un chemin qui a été parcouru, tout ça, il y a comme un
résonnement à travers ça. Il y a une intégrité.
Oui, une intégrité, puis c'est pas un défaut. Mais quand tu le voles de quelqu'un sans avoir fait le parcours, là, ça devient un défaut de transposer. Moi, j'aime prendre le texte, hein, la partition. Mettons, on fait une symphonie de Beethoven pour revenir à Beethoven. On revient toujours à Beethoven, de toute façon. Puis là, on fait le tour, on l'analyse. Moi, je fais le tour, là, 7-8 fois. Un côté, c'est de l'architecture. Après, c'est un côté de « Ah, OK, quel instrument qui répond à un autre dans l'exposition, dans l'exposition? » OK, il développe comment? Qu'est-ce qu'il utilise pour son développement? Après ça, moi, je trouve qu'il faut en écouter. Mais il faut en écouter une fois que on a notre concept est un peu plus sédimenté. Il faut dire « OK, là, j'ai une idée là, de comment ça devrait aller. » Puis donc, on a une écoute critique. Au lieu de juste absorber ce qu'il y a, puis d'être... qu'on se dit, bon, on se fait une opinion avec ce qu'on entend. On a une opinion, puis on écoute. C'est comme faire de la recherche.
Oui, on vérifie, finalement.
Oui, mais l'important, c'est de vérifier dans les plus vieux enregistrements, de faire comme une chronologie.
Et pourquoi les plus vieux?
Mais c'est parce que là, on va avoir une question d'interprétation des années 20, des années 30, des années 40, tu sais, de venir jusque-là, puis d'avoir l'évolution à travers ça. Okay. Ça, c'est une vraie recherche. C'est pas une recherche juste pour dire, je vais prendre les 10 plus connus, tu sais, je vais faire, OK, je vais faire Abado, Kleiber, puis là, je vais me faire un mélange de ceux-là. Ouais. Non, c'est l'idée, c'est d'écouter, puis de se faire une opinion, de voir comment on faisait la musique à cette époque-là. Puis là, après ça, vient la dernière étape, c'est que là, il n'y a plus d'enregistrement du tout. Là. Donc, la période où on en écoute des enregistrements, c'est relativement court. Puis c'est pour faire une recherche.
OK. Puis après pour vérifier, finalement, pour comparer, pour voir où on se situe.
Ben oui, puis quand on a bien fait le travail avant, là, on a toujours une opinion. Fait que c'est pas comme ça, ah, oh, wow, c'est un maître, donc moi, je fais comme lui ou elle. Mais moi, je pense vraiment que c'est important pour ça. Puis c'est le grand danger d'apprendre avec des enregistrements.
Alain Trudel, vous avez mentionné, bon, être chef invité, c'est une chose. Mmh. Être directeur artistique, directeur d'un orchestre, c'est autre chose. On ne sait pas exactement, enfin, on sait qu'il y a forcément la programmation, mmh. il y a le choix des solistes, enfin, mais la vie d'un chef d'orchestre, ben, qui est forcément père de famille, qui en même temps est instrumentiste et tout, ça représente quoi exactement? On part, on dit, on fait, bon, la saison 2020-2021, on fait quoi?
Ouais. Mais la différence vraiment entre chef invité puis d'être directeur artistique d'un orchestre, surtout quand la première fois qu'on rencontre un orchestre, c'est comme, tu sais, si on a une petite sortie ensemble, on va aller souper.
Une date, c'est toujours le fun, une date.
On peut rester en français,
oui, une date. On peut rester en français.
Okay. Puis ça, bon, c'est toujours plaisant. Ça, c'est un temps, c'est excitant parce qu'on se connaît pas. Il y a quelque chose de très bien à travers ça. Puis c'est pour ça que c'est important que les orchestres aient des chefs invités. Parce qu'on retrouve une certaine excitation. Exactement.
Mais j'aime beaucoup que vous compariez avoir un engagement avec un orchestre et tout à finalement une espèce de rencontre amoureuse. C'est quand même intéressant.
Mais absolument. Hein? Oui, parce que quand l'orchestre vote pour nous, pour qu'on soit le directeur artistique, écoute, c'est vraiment un mariage, là, rendu là, parce qu'on ne s'en défait pas comme ça là, non plus. Donc, il faut dire, OK, à long terme, on fait confiance que notre relation va bien se passer avec ce directeur artistique-là. Donc, la différence, c'est une fois qu'on a décidé de se marier, mais là, après ça, il y a tout ce qui vient avec. Et c'est pas seulement de faire un beau programme un soir pendant une semaine, c'est vraiment de planifier à long terme, mais pas juste une saison, les 5 prochaines, où c'est qu'on s'en va avec l'orchestre? C'est quoi nos plans à long terme? Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette famille-là? T'sais? C'est quoi le son de l'orchestre? C'est quoi le style de l'orchestre? C'est quoi qui va vraiment donner sa personnalité, tu sais, parce qu'il y a déjà une personnalité dans l'orchestre. Moi, j'arrive, puis il y avait déjà mon prédécesseur, Jean-François Rivet, a fait un super travail. Puis les musiciens dans l'orchestre sont super. Donc, c'est pas une question de rendre l'orchestre un niveau inférieur, de l'amener à un niveau où les gens sont bons. Et c'est déjà bon. Mais là, on parle de personnalité. Comment on va, à travers le respect de la musique qu'on joue, c'est quoi la personnalité de cet orchestre-là? Puis ça, c'est un travail administratif. Comment je pourrais dire? Autant il y a de la découverte constamment, parce que on change en vieillissant aussi. Autant c'est merveilleux parce qu'on sédimente la personnalité de l'orchestre.
Et Alain Trudel, un des gros défis des orchestres maintenant, c'est toujours cette idée d'aller chercher la jeunesse, etc. Mmh. Cette démission, le fait que, par exemple, les sociétés, les radios publiques ou les télévisions publiques aient abandonné la musique, notre musique, le fait que les journaux, maintenant, bon, il reste quelques critiques pour quelques concerts, et ça n'existe plus. Cette espèce d'abandon de tout un passé, de tout ce qui nous tient le plus à cœur, comment est-ce qu'on peut retourner ça? Si vous étiez premier ministre, si vous étiez président de quelque chose, quelles seraient les mesures que prendriez-vous, Alain Trudel, pour changer cette donne, pour que finalement la musique réintègre la vie de tout le monde?
En effet, c'est pas nous qui avons fait, mais League of Orchestras of America a fait une grande étude. Là. C'est naturellement la question sur toutes les lèvres.
Ben ouais.
Puis pas seulement ici, là, partout.
Ben non, ben évidemment.
Donc, l'étude a été faite sur plusieurs années. Sur 3 phénomènes. Ce qu'on dit, c'est qu'on va essayer 3 choses. On va faire un orchestre qui joue d'autres répertoires, un répertoire qui va, entre guillemets, plus intéresser les jeunes. Bon, la musique populaire, d'avoir des top 40 qu'on entend à la radio. Un autre, c'est qu'on va avoir l'orchestre qui va jouer dans des lieux différents complètement, qui va jouer un mélange de musique. Et puis l'autre, c'est qu'on va faire exactement ce qu'on fait là. Par contre, on va en parler plus, puis on va en parler à plus d'endroits. Donc, ce que tout le monde pensait qui était pour fonctionner mieux, de changer le répertoire, d'aller plus vers les jeunes, c'est ce qui a complètement floppé. Le deuxième, pas trop loin derrière, ce qui a vraiment bien marché, c'est la communication avec les jeunes, c'est de ne pas prendre les jeunes pour des cons, c'est de vraiment aller puis d'expliquer ce qu'on fait. Ce qu'on parle, c'est d'accessibilité. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus important. Moi, la raison pourquoi j'ai fait de la musique, c'est parce que c'était accessible. C'était pas parce que je disais, ah, faut que je joue d'un instrument. C'est parce que j'étais avec mes jeunes amis qui étaient adolescents, d'un jeune adolescent. On voulait faire quelque chose, on voulait se trouver quelque chose à faire, puis on s'est retrouvés à faire de la musique ensemble. C'était la façon d'être ensemble. Fait que si on garde le même esprit de dire, faut rendre ça accessible. Bon, c'est sûr, quand on parle de jouer dans les parcs, là, à Laval, là, c'est hallucinant qu'est-ce que ça a changé pour nous. Et surtout, là, il y a 2 ans, on avait une grande série dans les parcs, partout dans la ville. Les gens disent, j'ai jamais entendu ça, moi, en concert, la musique comme ça, parce qu'ils vont pas se déplacer. Au début, c'est à nous d'aller les voir. Je veux dire, il faut faire l'effort, il faut amener les gens vers nous.